Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hello les mamas, bienvenue dans le podcast qui parle de la maternité, la vraie. Celle qui épanouit, qui intrigue, qui fait peur. Celle qui bouleverse, qui construit, qui propulse en terre inconnue. Celle qui concerne tant de femmes que l'on entend si peu. Chaque semaine, l'une d'entre vous nous raconte son histoire sans filtre. Est-ce qu'elle a toujours rêvé de devenir mère? Comment s'est passée sa première grossesse? Quelles ont été les joies et les épreuves qu'elle a traversées? Qu'est-ce que la maternité a changé dans sa vie? Des histoires uniques qui nous rassemblent toutes. Alors, chère mamas, future mamas ou pas mamas du tout, installez-vous confortablement et laissez-vous bouleverser par la maternité, la vraie. Mélina a toujours voulu des enfants. Elle rencontre son futur mari sur une appli de rencontre et ils parlent rapidement de leur envie de devenir parents. Ayant une insuffisance ovarienne précoce, Mélina doit être un peu boostée pour tomber enceinte, faire une batterie d'examens, ce qui commence déjà à fragiliser son couple. Son accouchement est difficile, s'ensuit une erreur médicale et le tout va la plonger dans une forte dépression postpartum. De plus, son bébé ne dort pas et surtout, elle gère tout toute seule. Son mari ne prend pas en main sa nouvelle paternité. De dispute en dispute, Mélina découvre le terme « baby clash » et comprend que beaucoup d'autres couples vivent difficilement l'arrivée d'un bébé. Mais alors pourquoi personne n'en parle? Mélina va donc prendre les choses en main et faire appel à des professionnels pour sauver son couple. Thérapeutes, sexologues vont lui donner les clés pour apaiser sa relation avec son mari. Les choses s'arrangent, le couple se retrouve, renoue des liens et malgré cette première maternité un peu chaotique, Mélina veut un deuxième bébé. Elle tombe enceinte, son accouchement se passe beaucoup mieux et son mari prend cette fois-ci son rôle de père en main. Dans cet épisode, on parle de se disputer par message, de libido et de toquer aux portes. Bonne écoute!
Hello Mélina!
Hello!
Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Mamas!
Eh bien avec plaisir!
Alors toi, tu as combien d'enfants? Tu vis où?
J'ai deux enfants, je vis dans le sud de la France.
Ouais.
Mon premier, je l'ai eu, on était sur Paris, et ma deuxième, je l'ai eu donc dans le sud de la France.
Ok, ils ont quel âge?
Ils ont 7 ans et 3 ans et demi.
Ok, alors on va revenir avant que toi tu deviennes maman. Quel regard tu portais sur la maternité quand tu étais plus jeune? Est-ce que tu pensais toujours vouloir devenir maman depuis très jeune ou ça t'intéressait pas trop?
Ah oui, 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 j'ai toujours su que je voulais être maman. Ça a ouais. toujours été quelque chose que j'idéalisais, je pense, un peu trop. Mais finalement, il n'y avait pas beaucoup à l'époque de personnes qui racontaient la réalité ouais, de ouais. ce qu'est un postpartum, de ce que peut être une grossesse. C'est forcément le meilleur moment du monde pour une maman. Hein. C'est ouais, ouais. idéalisé comme ça. Et donc, je pense, oui, que je m'étais faite une image... complètement erronée de la parentalité et je n'avais pas en tête les mauvais moments. La seule chose que je savais, c'était le manque de sommeil, mais que les premiers mois.
Ouais.
Donc finalement, je pensais qu'au bout de quelques mois, tout allait rentrer dans l'ordre et que ma vie ne changerait pas finalement.
Alors à quel moment le sujet de la maternité est venu dans ton couple? Comment c'est
très
venu?
Très tôt, dès le premier rendez-vous.
Ah ouais?
Ouais, ben comme on s'est rencontrés sur un site de rencontre, il fallait savoir aussi si on était compatibles et si on avait les mêmes objectifs de vie. Donc ouais. Dès le début, on a mis carte sur table en disant voilà, toi, qu'est-ce que tu recherches? Puisque j'étais jeune à l'époque et voilà, il fallait qu'on soit assez direct sur ce sujet-là.
Ok. Et alors, au bout de combien de temps vous avez décidé d'enclencher les choses?
Au bout de 2 ans. De vie commune. On s'est installés ensemble très rapidement aussi. Mmh. Tout est allé assez vite ensemble. Et donc, au bout de 2 ans, on a commencé à sérieusement parler bébé et vouloir un enfant.
Et alors, est-ce que c'est arrivé, t'es tombée enceinte vite ou ça a pris du temps?
Non, ça a pris du temps parce que j'ai une insuffisance ovarienne précoce.
Ok.
Et donc, ça a mis du temps. J'ai dû faire quelques examens qui n'étaient pas forcément cool. Et ça a déjà commencé à fragiliser finalement notre couple parce que on s'attendait pas à ça, on s'attendait pas à devoir faire tous ces examens. Cette pression-là, le sexe sur commande, enfin tout ce qui tourne autour de la PMA. Et ça, déjà, ça a commencé à, je pense, fragiliser notre couple.
Ouais. Est-ce que ça a pris combien de temps ? C'était quoi, un parcours de PMA complet ?
Non. Pour mon fils, l'hystérosalpingographie a réussi à déclencher une ovulation. En fait, j'avais les trompes qui étaient bouchées en plus.
D'accord.
Et pendant l'examen, le radiologue m'a proposé d'envoyer un petit peu plus fort le produit de contraste, que ça allait faire mal, mais pour me permettre de déboucher les trompes. Donc j'ai accepté, effectivement, c'était pas sympa à vivre. Mais au moins, il m'a prévenu, il m'a dit, là, dans les 5 jours, il faut redoubler de câlins parce que potentiellement, c'est le moment, quoi. Enfin, ça va permettre de déclencher les choses. Et effectivement, je suis tombée enceinte le lendemain de l'hystérosalpingographie.
Ok. Donc ça a pris combien de temps en tout ?
Plusieurs mois. Vraiment. Ouais. Ça n'a pas été non plus très long. Je sais qu'il y a des couples en PMA où ça peut durer des années. Mmh. Ça a été assez rapide, mais c'est pas tant la durée qui a fragilisé notre couple, c'est plus la charge mentale de la PMA. Le fait que le médecin nous dise, naturellement, comme ça, sans aucune intervention médicale, ça ne sera pas possible. Nous qui pensions juste faire un câlin, au bout d'un mois, hop, test pipi, et puis c'est super, je suis enceinte. Non, là, ça a médicalisé quand même. On avait des rendez-vous quasiment toutes les semaines. C'était, même si ça n'a pas duré longtemps, suffisamment en tout cas pour que ça crée des discordes entre nous.
Ouais. Parce que c'était quoi ? Vous n'aviez pas le même regard sur les mêmes attentes ? Il y en avait un qui était plus pressé que l'autre. C'était quoi les
Non, pas plus pressé. C'est simplement la charge mentale. Forcément, qui c'est qui prend les rendez-vous ? C'est moi. Qui c'est qui arrive en avance au rendez-vous et qui trépigne d'impatience parce que l'autre est en retard parce qu'il avait un rendez-vous avant, c'était moi. Qui c'est qui écoute bien tout au rendez-vous pour pouvoir après refaire un débrief, c'est moi. C'était moi en fait qui portait le poids finalement de ce désir de grossesse sur mes épaules.
Ouais. Et alors tu découvres ta grossesse, comment tu le vis Là, c'est grosse joie.
Oui, alors moi, je sais que je suis enceinte dès le câlin. Je lui dis même que je me sens enceinte dès le lendemain, en fait. C'était une soirée un peu arrosée, c'était au 31 décembre. Donc on s'est un peu lâché. Et le 1er janvier, je lui dis, je suis enceinte. Il m'a pris un peu pour une folle, il m'a dit mais comment tu peux le savoir ? Je sais pas, je sens un truc bizarre dans mon ventre, je sens comme des petites bulles, ça m'a jamais fait ça de ma vie. Pour moi, je suis enceinte. Et effectivement, je suis allée faire une prise de sang avant même mon retard de règles, et j'étais bien enceinte. Le taux était tout petit parce que j'ai fait la prise de sang vraiment très tôt, donc mon gynécologue n'était pas ultra rassuré, donc pas rassurant non plus de me dire mais le taux il est tout petit. Moi, je me prononce pas en tout cas sur la viabilité d'une grossesse. Donc au début, forcément, un peu dur à encaisser. Ouais. Et puis, en fait, dès les premiers instants, c'est vrai que ça a été un petit peu angoissant, cette grossesse.
Oui, t'étais pas, fallait que t'attendes qu'elle soit viable à 100%.
C'est ça. J'ai dû faire des prises de sang tous les 2 jours pour voir si le taux augmentait bien. Puis après, faire des échographies pour voir si c'était pas un œuf clair qu'il y avait bien un cœur qui battait. Enfin, ça a été un début en tout cas. Moi, j'étais hyper heureuse. J'ai tout de suite, pour moi en fait, il y avait aucune possibilité. C'est-à-dire comment dire ? C'était pas qu'il y avait pas de possibilité de faire une fausse couche ou une grossesse arrêtée. C'est pour moi, c'était pas, ça n'existait pas même dans ma tête. Il y avait pas, c'était forcément viable et forcément il y avait un cœur et forcément j'allais avoir un enfant. Mais quand même dans un coin de ma tête, cette angoisse de me dire, mince, pourquoi le médecin, il est pas chaud bouillant comme moi, quoi. Enfin, pourquoi il n'est pas heureux, mais sinon, après, oui, beaucoup, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie des deux côtés.
Comment elle s'est passée, ta grossesse ?
Bon, j'aime pas être enceinte, pas du tout. Ouais. Je pense que j'ai eu tous les maux de grossesse qui peuvent exister pendant une grossesse. On dit que être enceinte, c'est pas une maladie. Moi, j'avais l'impression d'avoir 10 maladies d'un coup. Ouais, vraiment un gros... Pas du tout une grossesse épanouie. J'avais, ce que je disais souvent, c'est que j'avais l'impression d'être en colocation dans mon propre corps, en plus avec quelqu'un que je ne connais pas. Et donc, c'était vraiment compliqué. J'avais qu'une hâte, c'était d'accoucher et qu'on en finisse.
Et au niveau du couple, alors, pendant la grossesse, comment ça s'est passé ?
Compliqué aussi, surtout sur le plan des câlins, parce que bon, les premiers mois, moi, j'avais aucune libido, mais rien du tout. J'avais de la nausée, j'étais pas bien, j'avais des douleurs ligamentaires qui vraiment étaient insupportables, j'étais pas très bien. Lui forcément comprenait pas vraiment pourquoi je me détachais de lui. Milieu de grossesse, donc deuxième trimestre, moi j'avais la libido on fire et j'avais envie que de ça. Lui pas du tout, parce que voir mon ventre s'arrondir, c'était impossible pour lui. Il n'y arrivait pas. Il n'avait aucune libido. Et le dernier trimestre, il nous a mis tous les deux d'accord. On n'avait ni l'un ni l'autre envie de quoi que ce soit à ce moment-là.
Donc, petite période de jachère sexuelle pendant les 9 mois.
Mais qui a même duré après. Hein. Donc, on a eu 2 ans de jachère sexuelle, clairement.
Est-ce que tu avais fait un projet de naissance ?
Pas du tout. Non, je me souviens que la sage-femme à la maternité m'avait demandé. J'ai dit, je veux juste que mon bébé naisse. Et qui sont en bonne santé. Enfin, après, le comment, je m'en fous. Enfin, elle était surprise de ça. Je lui ai dit, moi, je veux juste qu'ils naissent bien, en fait. Et j'avais pas, aucune projection. J'y connaissais rien. Les cours de préparation à la naissance, je trouvais ça un peu... Je me suis dit, mais attends, il y a des femmes depuis la nuit des temps qui accouchent. Pourquoi nous expliquer comment pousser ? Enfin, j'en suis sûre qu'en plus, le jour où ça arrivera, je saurais même pas pousser. Enfin... Ouais. Je vais pas me rappeler, je saurais pousser, mais je me rappellerai pas des on respire, on machin. Non, ça va être instinctif en fait. Je vais pousser parce qu'il faut. Donc, non, aucun projet de naissance, aucun désir spécifique par rapport à ça.
Et alors, comment ça s'est passé le jour J ?
Le jour J, ça a été très très compliqué parce que on a fait une césarienne code orange, mais il y a eu une erreur médicale qui a été faite. Ouais. J'avais mon fils qui était en siège. Donc, on a fait une radio du bassin, voir si ça passait, donc c'était OK. Mais ils ont quand même essayé de le retourner, de faire une version par manœuvre externe. J'étais OK avec ça, parce que je ne savais pas du tout ce que c'était. Maintenant, je le regrette un petit peu. Mais bon, ils ont essayé de le retourner plusieurs fois, ça n'a pas fonctionné. Et ils m'ont fait faire une prise de sang à la suite de cette version par manœuvre externe, pour vérifier je ne sais pas quoi d'ailleurs. Et donc, je suis rentrée à la maison. On m'appelle le soir en me disant « faut que vous reveniez à la maternité. Il y a un problème. Il y a un échange de sang entre vous et le bébé. Ça va pas du tout. Et en plus, on s'est rendu compte que vous avez une thrombopénie gestationnelle. Vous avez les plaquettes qui sont très, 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 très basses. Là, on peut pas vous laisser accoucher. Enfin, là, c'est même dangereux pour votre vie, en fait, pour votre santé. Vous revenez tout de suite à la maternité.
Oui. »
Donc, j'y suis allée. Et ils m'ont dit « vous apportez toutes vos affaires, la valise, etc. » Donc, on y est allé. Ils m'ont donné un médicament. Ils m'ont refait plein de prises de sang. Ils m'ont donné un médicament pour faire monter mes plaquettes. C'était de la cortisone, il me semble, à forte dose. Ils me mettent en chambre. Ils demandent à mon mari d'aller faire l'inscription à la mater. Et là, pendant qu'il est en train de faire l'inscription, y a une interne qui rentre et qui me donne une ordonnance pour du Doliprane en me disant « c'est bon, vous pouvez rentrer à la maison finalement, il n'y a pas de souci. » Je dis « mais je ne comprends pas, là on m'a fait revenir, j'ai toutes mes affaires, j'étais déjà en train d'installer les affaires dans la chambre. » Elle me dit « non, puis elle me parlait vraiment de manière presque agressive en me disant « non, maintenant, il faut y aller, c'est bon, je vous le dis, vous rentrez. » Bon, ok, j'appelle mon mari, je lui dis en fait, annule l'inscription. Il avait déjà fait l'inscription, donc il a fallu qu'il annule. Enfin, tout un pataquès, il était 1h du matin, je disais, genre, mais on m'a dit que j'allais accoucher là. Ouais. J'ai déjà prévenu tout le monde, non, vous rentrez, c'est bon.
Trop bizarre.
Donc, on rentre, on se couche, parce qu'on n'habitait pas juste à côté de la maternité en plus. On s'écroule, et le matin, à 7h du matin, j'ouvre un œil, je regarde mon téléphone et je vois 60 appels en absence de la maternité. Je vois des appels en absence de ma mère. Je dis qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, j'avais laissé le numéro de ma mère j'avais laissé le numéro de mon mari en deuxième numéro d'urgence et un autre numéro d'urgence si jamais j'avais laissé ma mère. Et en fait, la maternité avait essayé de m'appeler plein de fois, avait essayé d'appeler ma mère. en disant, mais où est votre fille? En gros, ils ont pensé que je m'étais échappée de la maternité.
Ah ouais?
J'avais des messages vocaux qui disaient, oui, vous mettez en danger votre enfant, vous vous mettez en danger. Waouh! Donc je les rappelle, je dis, mais moi, on m'a demandé de rentrer, en fait, et j'ai une ordonnance là pour du doliprane. Et en fait, ils savaient plus où se mettre, ils savaient plus quoi dire. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai le médecin qui est venu me voir, donc ils m'ont refait faire tout, l'inscription en chambre. Et ils m'ont redonné le fameux médicament parce que j'ai mes taux qui avaient rechuté à nouveau de plaquettes. Donc, ils m'ont redonné le médicament une seconde fois. Mon mari est bien allé faire l'inscription et le médecin m'a annoncé que l'interne s'était trompée de chambre, enfin trompée de patiente et avait inversé deux patientes. Elle avait gardé une patiente qu'il ne fallait pas du tout garder et qui devait rentrer avec du doliprane. Et moi qui devais accoucher, elle m'a renvoyée chez moi.
Ah là là.
Et le temps de se rendre compte de leur erreur. Moi j'étais déjà en train de dormir dans ma chambre en fait chez moi.
Bah oui.
Donc ils ont essayé de me rappeler pour que je revienne tout de suite, mais moi je dormais. Enfin les gars, au bout d'un moment il est 1h du matin, je suis épuisée et j'ai pas eu une excuse, rien du tout. Enfin juste ça change tous les plans. Limite c'était moi qui les agaçais quoi.
Incroyable.
Et on savait pas si j'allais accoucher par anesthésie générale, par rachis anesthésie. Et jusqu'au moment où rentrer dans le bloc et que l'anesthésiste arrive, je ne savais pas si on allait m'endormir complètement ou pas.
C'est dingue cette histoire.
Mais ouais, ça dépendait du taux de plaquettes en fait et de ce que l'anesthésiste disait. Et en fait, au moment, c'était vraiment limite, mais il me faisait des prises de sang vraiment très 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 rapprochées pour regarder mon taux de plaquettes. Et à un moment donné, ils ont dit c'est bon, c'est maintenant, on peut y aller, let's go, on fait en rachis. Donc mon mari a quand même pu être là.
Toi, tu t'étais préparée à une césarienne?
Pas du tout. Non, je savais même pas ce que c'était. Enfin, je savais qu'on pouvait accoucher par le ventre, mais vraiment de ce que ça impliquait et de ce que c'était, pas du tout. Je m'y attendais pas du tout.
Et alors, comment ça s'est passé pour toi, cette césarienne?
Ça a été l'enfer. Vraiment, ça a été horrible. Bah, déjà, le stress de tout ce qui venait de se passer, je pense que mon cortisol, il a jamais été aussi haut. Je savais pas si mon mari pouvait être là ou pas. Le fait que tout le fait qu'on me badigeonne, que je sente rien, la sensation sur ma vulve endormie quand on me passe la bétadine, tout ça, pour moi, c'était horrible. Le fait d'avoir mes jambes mortes, que je ne sente plus mes jambes, c'était vraiment affreux. Le froid, les odeurs, et puis vraiment une équipe horrible. Enfin, vraiment, je n'ai pas d'autres mots. Ou carrément, l'infirmier qui était à côté de moi, je lui disais « je ne me sens pas bien ». Je disais à mon mari « je ne me sens pas bien, je ne me sens pas bien ». Il m'a quand même dit, bon, à un moment donné, il faut prendre sur vous, madame.
Oh, oh là là.
Et j'étais pas bien. Et en fait, non, j'étais juste en train de partir. J'étais en train de tomber dans les pommes. Et c'est l'anesthésiste qui dit, hop, allez, on reste là. Et ils m'ont donné un truc pour. En fait, je faisais une très, très grosse chute de tension. Donc, ils m'ont donné un médicament pour augmenter ça. Enfin, vraiment, j'étais pas bien. Cet accouchement, j'ai eu l'impression de le vivre sur une autre planète. Enfin, j'étais complètement dans le brouillard. Et puis, le fait que ça. Moi, ce qui m'a assez traumatisée, c'est le fait que je sente tout, mais sans douleur. C'est-à-dire, je sentais les mains en moi, je sentais tout ça, mais sans douleur. Et c'était vraiment assez horrible. Et puis, on me secouait dans tous les sens. Je sentais mon bassin se relever. Je pense qu'en fait, ils n'étaient pas du tout dans la bienveillance de mon corps, dans la bienveillance de tout ça. Il fallait juste sortir le bébé. Et puis finalement, mon corps, c'était qu'un paquet, quoi, ce qui était posé sur la table. Et ils n'en avaient rien à fiche de ça. Et pourtant, j'étais dans une maternité soi-disant bienveillante et soi-disant à vouloir être amie des bébés. Donc, Et puis, on m'a montré mon fils. Ça s'est passé tout très vite. Et puis après, il est parti avec son père. Et moi, on m'a laissée après en salle de repos où là, je suis restée pendant super longtemps. Parce que j'avais la tension qui était extrêmement élevée. Je pense qu'en fait, le médicament qu'il m'a donné pour m'augmenter ma tension a fait l'effet inverse. Et du coup, j'avais la tension à 18,9. Je suis restée pendant super longtemps dans cette chambre. Enfin, tout a mal commencé, en fait. Dès le tout début, ça a été vraiment très compliqué.
Et alors après, tu retrouves ton fils. Comment ça se passe?
Ça se passe bien. Enfin, il était dans les bras de son père. Il a pu rester avec moi, avec son père, du coup, pendant les 4 heures où je suis restée en salle de réveil. Ils ont pu rester avec moi en bas. Donc, j'ai vu quand même son premier bibi, parce que je ne voulais pas allaiter. Puis là, j'en avais clairement pas la force ni rien du tout. J'étais vraiment pas bien. Ouais. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Mais dès le début, on s'est dit, il y a quelque chose avec cet enfant. Il pleurait beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Ah oui.
Maintenant, avec le recul, je me dis, mais vu l'arrivée sur Terre qu'il a eue, mais moi, ça ne m'étonne pas qu'il décharge de dingue, en fait, cet enfant. Ouais. Qu'il soit... Waouh, ça a été horrible, vraiment. Parce qu'on dit que les bébés ressentent tout ce que la maman vit. Bah là, c'était pas cool. Vu que moi, ce que j'ai vécu, c'était vraiment pas cool. Lui, j'imagine que ça a dû être vraiment assez dur. Et j'aurais apprécié là, que l'équipe médicale nous en parle. Je me suis dit, bah, vous savez, vous avez quand même vécu un accouchement qui n'était pas simple. Peut-être que ça serait bien d'en parler, faire venir une psy aussi, pourquoi pas, pour le lien mère-enfant, enfin tout ça. Non, il n'y a rien qui a été proposé. Et juste, on voyait un bébé qui hurlait. Rien ne le calmait, rien. C'était intense dès le début.
Et ça a duré pendant combien de temps?
Oh, bah, j'ai envie de dire jusqu'à encore maintenant.
Ah ouais?
Ouais, maintenant on sait pourquoi. Mais dès le début, ça a été très très compliqué. Ouais. Dès les premières secondes où il est né, on a su qu'il y avait quelque chose qui était pas normal.
Ça s'est traduit comment pour vous? C'était quoi? Du manque de sommeil, des cris souvent réguliers, des pleurs?
Ah oui, bah, il hurlait H24, il pleurait tout le temps, à devenir violet, à s'arrêter de pleurer, enfin s'arrêter de respirer et à faire des spasmes de sanglots. Il dormait que 30 minutes dans la journée. La nuit, il dormait uniquement sur moi et si je marchais. Donc bah, toute la nuit, je marchais dans notre appartement pour qu'il dorme un petit peu, parce que je me disais que c'est quand même pas normal. Et la journée, il dormait, il s'endormait pendant quelques minutes et il se réveillait en hurlant et en étant inconsolable. Donc oui, ça a été ça pendant des mois et des mois et des mois.
Comment t'as géré, toi, ça?
Bah, j'étais en mode automatique. J'ai fait comme j'ai pu. Ouais. Je me suis pas trop posé de questions, en fait. J'ai fait parce que cet enfant, il était là et que de toute manière, il n'y avait pas d'autre option. On me laissait pas le choix, on me laissait pas... Donc j'ai fait. J'ai fait comme je pensais bien faire. Et j'ai demandé de l'aide, hein. J'ai dit à mon gynéco que j'étais fatiguée et bon, il a rien. Il m'a dit que c'était la condition normale d'être mère, que d'être fatiguée.
Ok.
Pédiatre aussi, je les ai beaucoup alertés. Je dis, mais je comprends pas. Bah oui, un bébé ça pleure. Ok, bon, bah, un bébé ça pleure, super. Et au final, non, j'ai pas eu d'aide alors que je l'ai quand même sollicité à plusieurs reprises. Mais je faisais, je dormais pas. Je dormais pas et je m'occupais de cet enfant en mode vraiment automatique.
Donc ça, j'imagine que ça a eu un impact aussi sur ton couple.
Ah oui, totalement, parce qu'en plus, on avait eu la bonne idée de pas faire poser le congé paternité de mon mari, qui était que de 14 jours à l'époque, à la suite de sa naissance, parce qu'on n'avait pas de mode de garde. À Paris, avec les modes de garde, c'est assez compliqué. On trouvait pas de nounou, pas de place en crèche. Donc on était un peu pris à la gorge. Donc on s'était dit, bah, c'est pas grave, moi je fais mon congé mater, et collé à mon congé mater, il prend son congé paternité, au moins ça nous laisse encore 15 jours de plus pour souffler, et puis il posera des congés CCP en fait, collés en plus au congé paternité, pour nous laisser encore un mois supplémentaire. Donc j'étais toute seule, lui il est rentré au boulot après les 5 jours d'arrêt quand j'étais à la maternité. Et donc, j'ai géré toute seule avec un mari qui a repris tout de suite sa vie et qui ne s'est pas rendu compte du coup ce que c'était qu'avoir un bébé.
Parce que donc, lui, il reprenait le relais le soir.
Non, bah, c'est ce que j'explique dans mon livre, hein, Baby Clash. C'est que bah, le soir, non, il reprenait son... Pour lui... Enfin, il prenait pas le relais. En fait, il ne savait pas s'en occuper de son fils. Il n'était pas avec lui la journée, il n'avait pas... appris les codes finalement de ce que c'est qu'un bébé, de ce que c'est que notre bébé. Et donc, pour lui, ça a été aussi compliqué à vivre parce qu'il savait pas s'en occuper, donc il s'est mis en retrait. Plutôt que de jouer des coudes en se disant non, ben maintenant c'est moi, je m'en occupe, laisse-moi faire, sors de la pièce, comme ça je fais moi aussi à ma sauce et comme je veux, et tant pis si je fais mal, ben, il a préféré prendre l'inverse et prendre la fuite. Et. La fuite sans me quitter, mais la fuite de je vois pas, je sais pas, et je prends pas d'initiative. Et donc non, j'avais pas de relais la journée, j'étais 100% avec mon enfant, et le soir j'étais avec mon enfant, mais avec mon mari à côté.
Limite une charge mentale supplémentaire.
C'est ça, parce qu'en plus, lui il prenait pas sa place, mais moi je lui la laissais pas non plus.
Ouais.
Et forcément, je me disais, bon, bah, il sait pas, bah, je vais faire alors parce qu'il sait pas, et, mais s'il sait pas et que je fais moi à sa place, bah, il saura jamais. Enfin, ça a été un cercle vicieux, un engrenage.
Ouais. À quel moment t'as posé le mot baby clash sur tout ça?
Bah, écoute, un jour, j'étais sur Instagram. À l'époque, j'avais pas d'Instagram à titre professionnel. J'étais sur Insta. Comme ça en tant que consommatrice, et je vois un article anglais qui parle du baby clash, et c'était la première fois que j'entendais ce mot là et quand j'ai lu l'article, je me suis dit waouh, mais en fait c'est ce qu'on est en train de vivre, quoi. Moi j'ai l'impression de vivre en colocation. Alors au début c'était en colocation avec mon bébé, et maintenant je suis en colocation avec mon mari. On n'a plus de geste de temps, on fait que de s'engueuler, mais tout le temps, il n'y a aucun sujet qui nous rapproche. Moi, ça me demandait qu'est-ce que je fais encore avec lui. Lui, pareil, inversement. Donc, en fait, c'est peut-être ça qu'on est en train de vivre. Et c'est là que j'ai vraiment mis le doigt sur Baby Clash. Ça m'a fait du bien de me dire, ah ouais, en fait, je ne suis pas seule. Il y a d'autres couples qui traversent ça, et juste, ils n'en parlent pas. Il y a un gros tabou autour de la venue au monde d'un enfant, comme si ça devait être idyllique, comme si ça devait être, oh, ça renforce le couple, non, mais c'est trop bien. Mais en vrai, alors oui, certains couples, c'est probablement vrai, mais dans beaucoup, beaucoup d'autres cas, c'est pas vrai. Le bébé, ça, c'est une bombe atomique au sein du couple. Et ça, on n'en parle pas. On le garde pour nous. Mais par contre, on va dire, ah bah oui, il y a quand même beaucoup de divorces après la venue au monde d'un enfant. Bah, faut peut-être se poser la question aussi, pourquoi il y a autant de divorces? Et est-ce que ces divorces, du coup, ils sont inévitables? Est-ce que juste s'il n'y avait pas des professionnels de santé, s'il n'y avait pas même des professionnels de tous les professionnels qui peuvent être autour des parents, à un moment donné, informent les parents que ça va arriver dans les cours de préparation à l'accouchement, plutôt que de nous expliquer comment pousser pendant 4-5 séances, alors que franchement, moi, j'ai même pas eu besoin de pousser, donc ça m'a servi à rien, ces leçons-là. Et en plus, les personnes, pour discuter avec des mamans qui ont accouché par voie basse, elles m'ont dit, le jour de l'accouchement, franchement, j'ai tout oublié, enfin, j'ai rien suivi. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des cours de préparation à l'après-accouchement? Bah, qu'on nous dise, voilà la réalité. Bah ouais, vous allez chier. Bah ouais, si vous avez des points de suture en bas, bah, ça va être compliqué. Monsieur ou madame, hein, ça peut être un couple mixte, un couple homoparental, de dire, bah, voilà, faut aider là le deuxième parent. Faut aider, mais pas simplement parce que vous êtes le deuxième parent, faut vraiment prendre votre rôle en fait à cœur. Et oui, ça risque d'être compliqué. Oui, vous allez avoir envie de vous étriper. Bah, peut-être au lieu de vous disputer déjà à voix haute, disputer par message, même si vous êtes en face l'un de l'autre.
Ah oui.
Parce que nous, c'est ce qu'on faisait. Enfin, c'est ce qu'on a appris à faire, même encore aujourd'hui. C'est très rare maintenant. Ça arrive encore un peu, mais c'est quand même assez rare qu'on se dispute à voix haute. On se dispute bien souvent par message. Parce qu'en fait, bah, déjà, les enfants, du coup, ils n'entendent pas. Et quand on écrit, on a le temps aussi d'avoir le recul entre ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai écrit et ce que je vais réellement envoyer.
Ça, c'est ce qu'on vous avait conseillé de faire?
Pas forcément, non. On ne m'a pas forcément conseillé de le faire. C'est nous qui l'avons fait de manière assez intuitive et instinctive. Ça, non, on nous a pas. Il y a personne qui nous a conseillé de le faire, mais on s'est dit au bout d'un moment, faut qu'on trouve des solutions aussi.
Parce que là, toi, quand tu mets ce mot baby clash, ton fils, il a quel âge?
Il a quel âge? Quand je mets le mot baby clash, c'est sur le tard. Hein. Il a plus d'un an.
Ah oui.
Après sa naissance, donc ça a été ultra compliqué. 4 mois. Après sa naissance, on se rend compte que j'ai encore du placenta dans l'utérus. Malgré la césarienne, ils ont été très doués sur toute la ligne en fait dans cette maternité. Ils m'ont laissé du placenta, un gros morceau de placenta, et une chance que ça ne soit pas infecté et que ça ne soit pas parti en septicémie. On ne sait même pas encore aujourd'hui comment c'est possible, 4 mois après. Mais c'est que je saignais en fait toujours, et à un moment donné, mon gynéco m'a dit « mais en fait, c'est pas normal ». Et donc j'ai fait une anesthésie générale pour retirer par aspiration, sauf que je me suis pas réveillée. J'ai fait un état de mal convulsif, j'ai fait 7 crises convulsives qu'ils ont pris pour des crises d'épilepsie à l'hôpital, et ce qui est normal, enfin là ils savaient pas, donc ils m'ont placée dans le coma artificiel. Je suis restée en réanimation pendant 1 semaine.
Ah ouais.
Ouais, le temps de faire tous les examens. Et on s'est rendu, enfin voilà. Après, le diagnostic a été posé. J'avais aucun trouble fonctionnel. C'était pas dans le cerveau. Enfin, mon cerveau, l'organe allait très bien parce qu'ils avaient peur d'une tumeur ou d'un AVC. Ils ont tout écarté. En fait, c'est une dépression du postpartum qui m'a engendré ça. J'étais tellement fatiguée, tellement épuisée, que le fait d'être en anesthésie générale, mon cerveau, il a dit, mais les gars, en fait, non. Moi, je veux encore dormir, là, vous me laissez dormir. Et donc, du coup, au réveil, j'ai convulsé, parce que mon cerveau n'avait pas du tout géré ce réveil. Et ça y est, le diagnostic a été posé par un psychiatre de l'hôpital. Et puis après, voilà, ça m'est suivi une très très longue, des longs soins pour sortir de cette dépression qui était assez sévère, qui aurait pu avoir raison de ma vie, hein, tout simplement. Parce qu'on peut mourir en fait d'un manque de sommeil, c'est ce que nous a dit le médecin en réanimation, c'est que ben, on peut réellement en mourir en fait du manque de sommeil. Et c'est pas une blague, il y a des tortures de guerre qui sont faites avec, on prive en fait de sommeil les gens. Et au bout de 4 mois à dormir que quelques minutes par, voire quelques heures par jour, ben, forcément à un moment donné j'étais plus en capacité de fonctionner correctement. Donc le terme baby clash, c'est pas pendant cette période-là que je l'ai vu, parce que là j'étais complètement à l'ouest. C'est pas non plus pendant tous les mois d'hôpital et tout, parce qu'après bon, s'en est suivi des longs soins. C'est pas là, c'est vraiment je crois ça remonte à il y a un petit moment quand même, hein, ça remonte à il y a 7 ans. Il me semble que je l'ai vu, on était déjà dans le sud de la France.
Et alors au moment où tu prends connaissance de ce terme, de tout ce que ça implique, qu'est-ce que vous mettez en place? Est-ce que tu en parles direct avec ton mari? Est-ce que vous voyez des professionnels?
Oui. Moi, de toute manière, j'ai été suivie par psychiatre, psychologue, forcément parce que j'avais quand même un lourd traitement. Donc, j'étais bien suivie sur le plan médical. Et j'ai rencontré une psychologue, une psychologue sexologue là où j'habite, qui nous a pris en charge et qui a effectivement, elle aussi, parlé du baby clash. Donc, j'ai vu psychologue, sexologue, c'était plutôt sur le plan aussi sexe, hein, parce que la libido n'était toujours pas revenue. Elle nous a beaucoup aidé pour ça. On a vu aussi conseillère conjugale à la PMI. On a aussi vu une psy conjugale au CMP. Mais à chaque fois, en fait, il ne parlait pas forcément du baby clash. Ce terme-là n'était pas ultra connu à l'époque, c'est donc il y a 6 ans. Ils parlaient de crise de couple, ils essayaient de nous faire comprendre le pourquoi du comment, retrouver la communication, mais c'était pas vraiment le terme baby clash.
Et ton mari, il a compris tout de suite quand tu lui en as parlé ?
Non, ça a été très compliqué. Bon, on a beaucoup travaillé, puis lui, il a beaucoup cheminé, il a une très grosse phase de déconstruction, il est encore aujourd'hui tout le schéma patriarcal bien présent dans sa tête, tout... Voilà, il est encore en phase de déconstruction, ça va beaucoup mieux, mais sur plein de points, il est pas encore totalement déconstruit, mais ça, c'est déjà très bien, et il faudrait plus, hein, et je l'accompagne aussi dans cette déconstruction, mais c'est long quand on doit défaire 40 ans d'idées et de schémas qu'on reproduit. Au début, non, ça a été compliqué pour l'amener à avoir un psychologue déjà avec moi, puis après de voir lui, un psy, tout seul pour faire ce travail et ce cheminement aussi seul. Donc non, au début, ça a été compliqué, mais on parlait divorce quasiment tous les jours, voire plusieurs fois par jour.
Ouais. Et alors, les séances de thérapie de couple, comment ça se passe? C'est une fois par semaine, une fois par mois?
Non, la conseillère conjugale, on l'a vue 3 fois.
Ok.
3 fois, et je crois que c'était à 2 semaines d'intervalle. Et la psy du CMP, on ne l'a vue que 2 fois. Et elle, c'était 2 semaines d'affilée. Donc, on l'a vue un lundi, on l'a revue le lundi suivant. Et moi, ma psy, je la voyais toutes les semaines.
Alors, comment vous avez réussi à vous reconnecter tous les deux
En suivant déjà les conseils que nous a donné ma psy, sexologue.
Donc, c'était quoi?
Il y en a beaucoup, j'en donne aussi énormément dans mon livre. Parce qu'il y en a vraiment, vraiment pas mal. En fait, mon livre, c'est un recueil de tous les conseils aussi que j'ai pu avoir Parce qu'il n'y a pas que elle, il y a aussi des fois eu des conseils par, à un moment donné, hop, un gynéco, et je chopais un conseil par-ci, un conseil par-là. Finalement, on n'a pas eu une personne qui nous a suivis du début à la fin et qui a sauvé notre couple. C'est aussi nous qui avons dû redoubler d'efforts et aller toquer aux portes, aller grappiller ces conseils-là, aller se nourrir de tous ces conseils. Et c'est ça qui a été le plus dur et où il a fallu faire preuve de beaucoup de force et de beaucoup de détermination pour y arriver, parce qu'on n'a pas quelqu'un qui nous a pris par la main en nous disant « Non, non, mais attendez, je vais sauver votre couple. » Non, ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie. Et donc, ce livre, en fait, c'est vraiment un recueil de tous ces conseils qu'on a pu mettre en place. Et il y a même des choses que j'ai... Voilà, à un moment donné, je voyais un post Instagram, je me disais « Cheminer, bah, attends, moi, comment je vais pouvoir le mettre ?» Et j'ai fait des choses aussi un petit peu à ma sauce et qui ont fonctionné pour mon couple. Au final, il n'y a pas une recette, enfin, il n'y a pas un conseil, mis à part le fait de se dire qu'il y a plein de couples qui passent par là, que c'est OK d'avoir envie de se séparer après la naissance d'un enfant, que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes se disent « comment j'ai pu avoir un enfant avec cette personne ?» Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin du couple. Ça peut aussi dire que c'est la fin du couple. D'ailleurs, s'il y a de la violence, qu'elle soit verbale ou physique, c'est inacceptable, intolérable, et là, il n'y a pas d'excuse, en fait, et il n'y a même pas de possible, selon moi, pardon, enfin, s'il y a de la violence. Après, si c'est... voilà, si c'est un problème d'éducation, parce qu'aussi, les conseils, ils vont être en fonction de ce pourquoi la personne... enfin, de ce pourquoi le couple est en baby clash. Est-ce que c'est elle, est-ce que c'est lui déjà, est-ce que c'est les deux qui ont un problème avec cette naissance, est-ce que c'est du regret maternel ou du regret paternel, est-ce que c'est un problème de on ne sait pas faire, parce qu'on a eu que des exemples hyper d'une société hyper patriarcale, et finalement mon père a fait ci, ma mère a fait ça, et je reproduis ce même schéma, ou est-ce que c'est au contraire, je n'ai pas eu de parents et je ne sais pas en fait comment. Voilà, donc il n'y a pas un conseil bien précis, il y a une multitude de facteurs et de choses qu'on peut mettre en place, et clairement, ce n'est pas simple. Moi, j'ai des personnes sur Instagram qui me disent « Ouais, j'ai lu ton livre, mais je pensais que ça allait tout débloquer d'un coup. » Ben non, en fait, c'est pas une potion magique. Je n'ai pas une baguette magique qui dit « Bam, allez, hop, tu vas pouvoir retrouver une vie sereine dans ton couple. » Mais il y a des choses à faire, que ce soit sur le plan... sexuel, que ça soit pour retrouver sa libido, que ça soit pour retrouver la communication, faire des listes. Ça aussi, au début, j'étais hyper fermée dans l'idée de trop aider mon mari à se déconstruire. Parce que je me disais, mince, moi, à un moment donné, on m'a mis mon gamin dans les bras, on m'a pas expliqué, on m'a pas donné une notice, en fait, de savoir comment fonctionne un gamin. J'ai fait toute seule et j'ai appris toute seule. OK. C'est un fait, c'est comme ça, c'est vrai. Mais si je reste bloquée sur cette vision-là et sur cette idée-là, ben en fait, ça n'avance pas. Ouais. Parce que je serai toujours frustrée qu'il ne fasse pas. Lui ne saura toujours pas faire. Donc, il va toujours s'en désintéresser. Et au final, ben, on va divorcer parce que c'est mieux. Ben, à un moment donné, j'ai aussi rangé un petit peu ma fierté en me disant « Ok, je n'ai pas envie d'être sa mère. Je n'ai pas envie de lui prendre sa main. Mais ben, à un moment donné, il va falloir aussi... si on veut avancer ensemble, il va falloir que je lui prenne un petit peu la main. Et c'est pas qu'être sa mère, c'est simplement être sa femme. Et ouais, c'est pas agréable parce que j'aimerais qu'il le sache de lui-même, mais de manière, il ne le sait pas. Donc au bout d'un moment, il sait même pas où aller chercher les infos parce qu'il ne sait pas. Enfin, c'est comme quand on arrive dans une nouvelle culture et qu'on nous dit « Oui, bah, tu pourrais faire un effort quand même, tu devrais te conformer à la culture de là où tu arrives. » Mais s'il n'y a personne qui nous explique c'est quoi la culture, si personne nous dit que, je ne sais pas, dire bonjour c'est une insulte, bah nous on vient avec notre pop culture, donc on dit bonjour à tout le monde, on pense que c'est la politesse. Et tout ça, c'est ma psychiatre de l'époque qui m'a énormément aidée à relativiser et à me dire non, c'est pas que je suis sa mère, c'est simplement que je vais l'aider à avancer, et pour qu'en plus il soit égal à moi et qu'à un moment donné il puisse aussi lui faire ses recherches par lui-même. Et tout ça, voilà, de le laisser faire, de le laisser avancer à son rythme, d'arrêter de tout critiquer aussi, critiquer tout ce qu'il faisait. Et Et voilà, et c'est comme ça qu'on a évolué et qu'on évolue encore aujourd'hui. Il y a encore plein de choses qui m'agacent et que j'aimerais que ça soit fait différemment ou que j'aimerais que ça aille plus vite aussi dans la manière dont c'est fait. Et alors, des fois, j'ai de la patience et j'arrive à l'amener doucement sur le terrain. Et puis, il y a des fois où j'ai pas envie et ça pète. Et inversement, il y a certaines fois, lui, des choses où ça l'agace que je ne fasse pas ou que je fasse. Et des fois, il me le dit gentiment et des fois, il me le dit pas trop gentiment.
Est-ce que vous avez pris le temps de vous retrouver avant de penser à un deuxième bébé ? Comment ça s'est passé pour la deuxième grossesse ?
Oui, bah c'est justement, on est enfin sorti la tête de l'eau. Enfin, on était heureux. On s'est dit, ça y est, on a passé vraiment la grosse tempête. Maintenant, ça va mieux. Et en fait, le médecin, parce que j'ai encore vu mon gynéco, et le gynéco me dit... Là, si vous en voulez un deuxième, je ne sais pas si c'est prévu pour tout de suite, mais il ne faut vraiment pas tarder parce qu'après, ça ne sera plus possible. Et ouais, ce n'est pas vraiment dans les plans tout de suite. Mais on s'est dit, let's go. Enfin, surtout moi, en fait, je me suis dit, let's go. Lui, il n'en avait pas du tout envie. Et j'avoue, j'ai été un peu égoïste sur ce coup-là. C'est que moi, je voulais absolument un deuxième enfant. Je voulais un deuxième enfant, même si ça avait été super dur le premier. Je voulais un deuxième enfant et je le voulais du même père. Je voulais pas refaire ma vie avec quelqu'un. Donc, je m'étais dit, même si on divorce après avec mon mari, ben, tant pis, j'aurai mon deuxième enfant et ils auront le même père.
Ouais.
Et ouais. C'est horrible, hein, rétrospectivement parlant, de me dire que j'ai pensé comme ça, mais c'est ce que j'ai pensé. Et puis, donc, on est reparti. Là, pour le coup, on est allé plus loin dans le protocole PMA. On a fait donc hormones orales, mais ça n'a pas fonctionné. Après, des injections... Et c'est la veille de faire une insémination artificielle où je suis tombée enceinte grâce aux injections.
Est-ce que tu appréhendais qu'il y a un autre baby clash après, que ce soit aussi compliqué ?
Ah oui, là pour le coup, on s'est ultra protégé. Là, j'étais suivie par une psychiatre de la maternité. Sage-femme qui faisait en même temps de la sophrologie, psychologue. Enfin, là, on a revu conseillère conjugale. Enfin, là, on s'est ultra bordé pour éviter que ça repète parce qu'on savait que c'était une possibilité. L'avantage, c'est que j'ai accouché pendant le confinement. J'ai accouché 4 jours, je crois, après le début du confinement. Donc, c'était vrai, du premier confinement. Donc, en 2020, c'était on savait pas trop où on allait, ce qu'on faisait. C'était encore une césarienne, mais cette fois-ci, elle était programmée parce que ma fille s'était mise en transverse, donc pas possible d'accoucher par voie basse. Mais cette fois-ci, une équipe médicale incroyable. C'est ma gynéco qui m'a accouchée, qui m'a opérée. L'anesthésiste d'une gentillesse. Je pense que l'équipe était tellement déboussolée aussi, déconcertée par ce confinement, par ce Covid, on ne sait pas. Moi, mon mari n'a pas pu être là pour le coup pendant l'accouchement, pendant la césarienne. Je pense qu'ils ont tous redoublé d'humanité et d'efforts pour être tellement gentils, pour se dire faut que ça passe. Enfin, c'est une naissance quand même, quoi. Faut que ça soit cool un peu pour la maman.
Ouais.
Là, j'avais prévu un projet de naissance. Je savais que j'allais accoucher par césarienne, donc j'ai eu le temps de me préparer. Et j'ai demandé à ce qu'on me fasse pousser. Est-ce qu'on m'informe quand c'était le moment de sortir ma fille pour que moi je la pousse, même mentalement en fait, même si c'était pas physiquement.
Ouais.
Mais là, ça a été incroyable. C'est-à-dire que déjà, l'anesthésiste a viré le champ, le drap qui était devant nous en disant « Oh, moi, je sais pas vous, mais moi, il me saoule ce drap, je vois rien. » Qu'il a viré pour qu'on puisse... Alors, je voyais pas mon sang, rien du tout, hein, mais juste c'était pour que je voie la sortie de ma fille.
Ouais.
Et en fait, l'équipe m'a, enfin, lui m'a mis la main comme ça sous la tête pour que, enfin, comme si c'était un vrai accouchement. Donc, il m'a basculé en avant en disant allez, on pousse. Et eux, mais en fait, je poussais pour rien parce que j'étais tout endormie, hein, c'était en réchie anesthésie. Et moi, je pensais qu'ils allaient me faire pousser juste une fois en disant allez, on pousse. Allez, super, voilà, bébé est sorti. Pas du tout, il y a toute l'équipe qui s'est mise à m'applaudir en disant allez, on pousse. C'était la première fois en fait qu'on leur demandait ça, qu'on leur faisait cette demande-là. Et au final, ils m'ont fait pousser 4-5 fois, vraiment, enfin des longues poussées en plus. Je pense que j'ai dû pousser pendant une minute. Et au fur et à mesure, ma gynéco sortait ma fille, mais tout doucement. Un pied, et puis le deuxième pied, et puis on voit un genou. Et donc elle essayait de pas tirer trop fort pour pas la faire sortir d'un coup au fur et à mesure des poussées. Et je la regardais parce qu'en plus elle était là. Et donc et elle me l'a sortie et elle me l'a mise tout de suite. Parce que du coup le champ était parti, enfin l'anesthésie l'avait viré, donc du coup elle me l'a mis tout de suite comme ça, comme si c'était une vraie, et elle m'a dit allez-y attrapez-la. Donc pour moi oui, elle est pas sortie par en bas, mais elle est sortie par un trou qui était fait juste au-dessus. Mais pour moi c'est comme si j'avais accouché. Bon, j'ai pas senti les contractions. Et pareil, comme il y avait pas mon mari, du coup c'est l'anesthésiste qui a pris le rôle finalement de l'accompagnant. Il m'a dit c'est pas que j'ai pas envie de rester avec vous, mais je vous laisse avec mon infirmière. Moi, je suis la petite, parce que c'était une fille du coup. Moi, je suis la petite et je reste avec elle. Et il m'a pris mon téléphone pour aller prendre des photos et des vidéos. Et il faisait que de repasser la tête. Ça va, c'est bon, elle va bien. Alors, elle a eu un petit souci, on a dû l'aspirer, mais ça va. Puis il repartait. On vous l'amène pas tout de suite, elle a besoin d'atterrir, mais je la prends. Hein. Je la prends dans mes bras, vous inquiétez pas. Puis il repartait, puis il revenait. Et moi, c'était trop bien, enfin, j'étais en confiance, je savais qu'elle était bien entourée. Effectivement, elle a eu un petit problème de respiration au début, c'est pour ça qu'ils sont partis un peu vite avec elle. Mais j'ai même pas été angoissée quand ça s'est passé, parce que c'était tellement cool. Et mon mari nous attendait en haut dans la chambre. Ce qui a été là, par contre, galère, c'est que comme il ne pouvait pas descendre avec moi, j'étais toute seule en salle de réveil. Le temps que je retrouve l'usage un petit peu de mes jambes, et donc j'avais ma fille toute seule avec moi, et comme c'était le Covid, ils étaient déjà en sous-effectif, et ils n'avaient pas le droit de rester totalement avec moi, et donc j'étais seule dans cette grande pièce, et là je voulais allaiter. Bon, ça a été un peu galère, je savais pas comment la mettre, j'étais totalement gauche, en plus j'ai eu une réaction, on m'a dit que c'était normal à l'anesthésie, et en fait je tremblais énormément, j'avais peur de la faire tomber. Et j'ai dû appeler un peu à l'aide parce que j'avais très très peur de la faire tomber. En plus, je la secouais dans tous les sens. Et on me disait qu'il fallait que je dorme pour éliminer l'anesthésie pour que ça aille mieux. Donc j'avais peur de la faire tomber encore plus. Hein. Donc ils me l'ont installée avec une sorte de bandeau pour qu'elle reste bien sur moi. Enfin, ça, ça a été pas très cool. Mais sinon, ça a été super. Et là, dès la maternité, mon mari est resté qu'avec moi. Il s'en est occupé, il se levait la nuit pour ce qu'il faisait pas pour mon fils. Hein. Il s'en est hyper bien occupé. Et après, quand on est rentré à la maison, on était confinés. De toute manière, on était entre nous. Bon, il y avait un petit grand de 3 ans et demi avec nous, donc il fallait aussi s'en occuper. Mais mon mari a pu voir ce que c'était que de vivre avec un nouveau-né.
Ouais, d'être là H24.
Voilà, c'est ça. Et sachant qu'en plus, c'était un nouveau-né facile, ma fille. Elle a été calme. Enfin, ça a été un nouveau-né normal, entre très gros guillemets. J'aime pas parler de normalité, mais c'était un nouveau-né. Elle pouvait dormir pendant 3 heures d'affilée entre 2 biberons. Et chose qu'on n'avait jamais vécue pour notre fils. Et ça, c'était cool. Mais quand même, il a vu ce que c'était. Et puis, les petites réflexions qu'il pouvait me faire de « On mange quoi ce soir ?»« t'es encore en pyjama ?» Tu t'es pas brossé les chicots, en rigolant, hein. Mais c'est des petites choses où, mais en fait, j'ai pas le temps, même aller faire pipi, j'ai pas eu le temps, donc juste laisse-moi tranquille. Ah, t'as pas vidé les couches, enfin la poubelle de couches, toutes ces petites phrases comme ça que j'entendais après la naissance de mon fils qui me mettaient hors de moi. Là, il a vécu en pyjama, les chicots pas lavés, et la poubelle de couches, c'était quand on y pensait quand ça puait trop, qu'on allait la sortir. Et puis pour qu'est-ce que tu veux manger? Le problème, c'est qu'il n'y avait rien. On ne pouvait pas se faire livrer à manger parce que je pense qu'on aurait poncé les Uber Eats et tout ça pour avoir à manger rapidement. Et ben, du coup, c'était... il allait faire les courses. Alors, ça, pareil, c'était le confinement. Donc, il allait faire les courses. On avait l'impression qu'il partait sur la lune. Quoi. C'était les gants, les machins. C'était le tout début, donc on avait très peur. Puis nous, avec un nouveau-né à la maison, on ne voulait surtout pas le ramener. Ouais. Moi, fortement asthmatique, on avait très peur aussi. Donc, il ramenait mais des plats un peu tout faits. Chose qu'on n'avait jamais fait après la naissance de mon fils, je faisais à manger tous les petits plats, je m'épuisais. Là, Picard, t'es notre meilleur ami. Hein.
Ouais.
Et ça, ça a vraiment changé notre postpartum. Par contre, mon postpartum, on n'a pas vécu de baby clash lié à la venue de bébé. Par contre, on l'a vécu après, au moment où j'ai repris le travail.
Ah oui.
Et là, ça a été un baby clash différent. Ça a été un baby clash différent parce que c'était plus... moi, comme je travaille sur les réseaux sociaux, je travaille sur mon blog et sur Instagram, je suis toute la journée à la maison. Lui, il a un métier qui l'amène à sortir. Il sort de la maison. Il est... Donc, Ben forcément, moi j'ai le temps. Puis on avait eu la bonne idée, mais là aussi je me dis mais quelle drôle d'idée de se dire, ben comme je suis à la maison, ben je vais garder ma fille.
Oui. Ah oula.
Donc, bosser avec un enfant, c'est juste impossible. Puis surtout que, enfin non, même si elle était très très cool, non, c'est pas possible. Puis moi j'ai besoin d'avoir ce moment aussi de me retrouver moi en tant que femme. Déjà que je bosse toute seule, enfin c'est pas cool. Ouais. J'ai aussi besoin de me retrouver. Et ça, lui, il n'a pas eu non plus la présence d'esprit de dire, ben non, en fait, il faut qu'on l'inscrive à la crèche. Non, c'était non, elle reste avec toi, c'est sa place. Donc, bah oui, mais pourquoi toi, t'es pas restée aussi? Au bout d'un moment, tu peux aussi faire. Et puis, j'ai repris une formation. J'avais repris mes études pendant un an, tout en m'occupant de ma fille, tout en travaillant à côté. Et donc là, c'était plus le côté, ouais, mais moi, j'ai besoin là de soutien et j'ai besoin aussi que tu prennes ta part parce que quand les enfants sont malades, forcément, qui c'est qui s'en occupe? C'est Bibi. Ben non, moi, je bosse aussi. Donc, tu vas poser des congés enfants malades et tu vas t'en occuper. Ça a été notre baby clash, mais qui était vraiment plus axé sur le côté, moi, à vouloir m'imposer en tant que femme et que je travaille et que j'ai aussi une vie. Et lui, à comprendre que j'ai besoin... d'avoir cette vie et que d'être à la maison, c'est non. Donc la première chose qu'on a fait, c'est d'inscrire notre fille à la crèche. Ouais. Voilà. Sans culpabilité de me dire, ben oui, mais c'est parce que je reste à la maison. Non, ben en fait, je bosse, je travaille mes cours et je travaille aussi le côté professionnel pour gagner ma vie. Parce que accessoirement, on ne se nourrit pas d'air et on ne paye pas notre loyer avec des crèmes clean.
Ouais. Vous avez réussi cette fois à mettre les choses en place plus rapidement, à communiquer aussi plus rapidement pour pas que ça s'installe.
Oui, parce qu'on avait déjà finalement les conseils qu'on avait déjà pris pour ce premier baby clash. Ben, on a remis, il y a certaines choses, on s'est dit, ah mais tu te souviens, ça on l'avait fait, c'était cool. Puis il y en a d'autres, parce que ma psychiatre aussi a continué à me suivre jusqu'au 1 an de ma fille, de la maternité. Et elle nous a donné pas mal de conseils, par exemple de faire des listes. Que chacun, dès qu'il pense à un truc, il met sur une to-do list. Et comme ça, même si t'es pas mon écriture, par exemple, si c'est mon mari qui note un truc et que je me dis, ah bah tiens, je vais le faire, enfin, on se cantonne pas qu'à ce qu'on pense nous. C'est-à-dire, on met en pot commun une grosse liste dans la famille et on check et on sait que le soir, il faut que ça soit terminé. Enfin, on avait une to-do list du coup journalière, hebdomadaire, mensuelle, annuelle aussi. Et comme ça, c'est chacun sait ce qu'il doit faire et sait ce qu'il doit penser. Et après, même cette to-do list, on l'a figée. C'est-à-dire, on dit, bah, toi, tu t'occupes de ça et ça, c'est ta mission. C'est-à-dire que moi, je ne dois même plus y penser. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a encore des couacs. Il y a encore des couacs, même encore aujourd'hui. Je pense qu'en fait, la vie de couple, ça n'est jamais 100% acquis. Ça n'est jamais... Parce qu'on évolue aussi. On a des fois dans la vie, on a des moments qui font que c'est un peu moins facile. Là, par exemple... Une des charges mentales qu'a normalement mon mari à 100%, c'est les voitures. Moi, les voitures, on a deux voitures. Moi, la voiture, je ne sais pas m'en occuper. C'est-à-dire que la conduire, déjà, c'est bien beau, hein, parce que j'ai une phobie de la voiture de base. Donc, aller faire les niveaux, les machins, moi, je ne sais pas faire. Ça fait quand même 6 fois que je lui répète que je n'ai plus de produits à glace, enfin pour nettoyer les essuie-glaces dans mon... Je ne sais même pas c'est où, d'ailleurs, qu'on met ça, mais dans mes essuie-glaces. Et là, ça commence fortement à m'agacer. Ça fait quand même 6 fois que je lui dis. Au bout d'un moment, j'ai pas besoin. Déjà, j'ai même pas besoin de te le dire. C'est censé être ta charge mentale à toi. Et moi, j'ai même pas besoin d'y penser. Et de deux, j'aurais dû te le dire qu'une seule fois. Et ça aurait dû être fait immédiatement. Donc, il y a encore des moments où j'ai juste envie de prendre un essuie-glace et d'aller lui faire manger.
Est-ce que tu transmets tout ça à tes enfants?
Oh oui, énormément. D'ailleurs, mon fils, ça m'a fait tellement rire. C'est sorti, mais de nulle part. Enfin, pas de nulle part, mais j'ai fait la sieste. Et lui a fait la sieste. Enfin, tout le monde a fait la sieste dans la maison, mais voilà, quand je me suis levée de ma sieste, lui, il a dormi dans le canapé. Il s'est relevé de son lit. Bon, bref, il est allé. Mais franchement, je ne l'ai pas entendu se lever déjà. Puis après, il est resté dans le canapé, mais il n'a pas fait de bruit. Chose qui est quand même excessivement rare. Donc, j'étais déjà très contente. Et donc, je lui dis, bah, merci de ne pas m'avoir réveillée. J'avais vraiment besoin de faire la sieste. Et là, il me dit, charge mentale, hein, charge mentale. Tu sais que sans même que tu me le dises, j'ai re-rangé tout le canapé, j'ai remis les coussins et j'ai même rangé le plaid à l'endroit où normalement tu le ranges. T'as vu, charge mentale, maman. C'est bien, il a compris ce que ça veut dire, charge mentale. C'est cool. Et non, c'est clair, mon fils, il passe l'aspirateur Et à chaque fois, il me dit, maman, t'as vu, hein, charge mentale, hein, tu as même pas eu besoin de me le dire que je l'ai fait tout seul. Donc, ouais, et puis au final, on montre aussi par l'exemple que ben, un papa, c'est là aussi pour s'occuper des enfants. Et d'ailleurs, mon fils a même fait la réflexion il y a pas si longtemps qu'en ce moment, il passait beaucoup plus de temps avec son père qu'avec moi. Et que ça lui allait pas. Donc, même dans les deux sens, hein, parce qu'au final, c'est vrai, en se posant, on s'est dit avec mon mari, c'est vrai qu'en ce moment, il est beaucoup plus avec toi qu'avec moi, à faire des activités, à faire des choses, parce qu'il va au foot et que c'est mon mari qui s'en occupe et que le foot, ça prend une part énorme dans sa vie. Donc, et ben là, tout le week-end, j'ai joué au foot avec lui. On a fait des passes et puis des entraînements et puis on recommence, puis on recommence. Et je pense que c'est dans les deux sens. Et il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême opposé à dire que c'est mon mari qui fasse tout et moi, plus rien. Ce n'est pas le but non plus. C'est vraiment qu'on soit à 50-50 parce que ben, ces enfants, on les a fait ensemble. Mais oui, même ma fille, même à 3 ans et demi, c'est... Alors elle, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que mon fils, je le motive et je le challenge pour qu'il prenne sa place en tant que... futur père, si un jour il veut des enfants, parce que ça, pour le moment, il n'en veut pas, il me dit qu'il n'en veut pas, qu'il n'aime pas les enfants, et c'est très bien aussi. Mais si un jour, voilà, et puis même en tant que conjoint d'un homme, d'une femme, peu importe qui il aimera, on sera OK avec ça, et qu'importe qui il aimera, il faudra aussi qu'il prenne sa part dans le couple, parce que c'est pas parce que c'est un homme que... Donc ça, on essaye vraiment de lui apprendre que... il doit prendre sa part. Et ma fille, c'est l'inverse. C'est aussi de dire, t'as pas à tout gérer, ma fille. Il y a des choses, c'est pas de ton ressort. Et ton frère, s'il a fait une bêtise, s'il a renversé un verre, il est hors de question que t'ailles chercher un sopalin pour lui. Même s'il te le demande. Il a des petites jambes, il a des petits pieds, ben il va s'en servir. Donc ça, ouais, on essaye de faire que la génération de demain ne soit pas embêtée par les mêmes choses que notre génération et que celle de nos parents et nos arrière-grands-parents, etc.
Est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y avait énormément de personnes concernées par le baby clash quand t'as sorti ton livre? Et est-ce qu'il y avait plus de femmes qui t'ont posé des questions ou qui t'ont apporté des témoignages que d'hommes?
Oh oui, il y a énormément, je reçois, mais tous les jours des messages, et ça me fait tellement plaisir sur Instagram, qui disent merci. Merci d'en avoir parlé, en fait, parce qu'on vit exactement la même chose. Et pourtant, je raconte ma vie. Alors, on n'a pas tous eu un accouchement difficile. On n'est pas tous passés par une PMA. On n'est pas tous... Mais finalement, il y a quand même un tronc commun, même si on vit des histoires différentes parce qu'on n'a pas tous les mêmes maris, les mêmes enfants. Ça peut être même des couples de femmes, des couples d'hommes qui vivent ça. Mais il y a quand même toujours une part commune où on peut s'identifier. Et j'ai beaucoup de personnes qui me disent... mais merci d'en parler. Et c'est vrai que c'est fou le nombre de personnes qui m'écrivent. Et moi, je ne m'y attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes. Oui, moi, il y a plus de femmes qui m'écrivent. Mais en même temps, c'est un peu biaisé parce que j'ai beaucoup plus de femmes qui me suivent sur les réseaux sociaux. J'ai quand même 96% de femmes et 4% d'hommes. Donc, forcément, proportionnellement parlant, il y a plus de femmes qui vont acheter mon livre et qui vont potentiellement me faire un retour. Mais j'ai quand même des hommes qui m'ont fait des retours. Et j'ai des hommes qui m'ont écrit, c'est arrivé que j'ai des hommes qui m'écrivent, qui ne me suivent même pas sur les réseaux sociaux, mais comme c'est écrit sur la couverture du compte La Famille Tortue, sont venus voir sur Instagram, m'ont envoyé un message en me disant « Merci, j'ai acheté votre livre aujourd'hui, je l'ai lu en une heure, et waouh, que ça fait du bien, et je vais m'empresser de le donner à ma femme. Je vous connaissais pas, mais j'adore, et je vais m'empresser de le filer à ma femme pour qu'elle puisse le lire et qu'elle se rende compte qu'en fait, on n'est pas seul à vivre ça. Donc, et ça, c'est chouette. Ouais.
Quel conseil tu pourrais donner à un couple qui traverse le baby clash?
De se faire aider, mais de pas hésiter à défoncer les portes s'il se retrouve face à des murs. Vraiment, de dire ça ne va pas dans notre couple. Mais là, on a besoin d'aide, en fait. Et pas juste de dire... oui, non, mais par exemple, quand le gynécologue, après la naissance, demande quel mode de contraception on prend, plutôt que de se fermer en disant « Attends, mais comme si j'avais que ça à penser, machin », c'est de dire « Non, mais là, déjà, ça ne va pas dans mon couple. » Donc, d'ailleurs, est-ce que vous n'avez pas des conseils? Est-ce que vous n'avez pas des collègues avec qui vous pouvez bosser, qui peuvent nous aider? Voilà. Et plus, en fait, les couples en parleront, plus demanderont de l'aide aussi aux praticiens, et plus ça deviendra normal finalement dans la société, et plus il y a un village qui se construira autour de ça. Et c'est vraiment, pour moi, c'est de demander de l'aide, ça ne veut pas dire qu'on est faible, ça veut simplement dire que des fois, d'avoir une personne qui a un regard extérieur à la situation, elle ne prend pas parti. Nous-mêmes, on va prendre parti pour nous, forcément. À part dans certains cas où on sait qu'on a foiré et qu'on sait que l'autre a 100% raison, la plupart du temps, on va prendre parti pour nous. Et puis, la personne qui est en face de nous, elle va prendre parti pour elle. Et puis, si on demande à notre mère, elle va prendre parti pour nous. Si on demande à notre meilleur ami, pareil. Enfin, il y a toujours un regard qui est biaisé parce que forcément, on prend parti pour la personne qu'on aime le plus et de qui on est proche, de qui on est parent. Et c'est une grosse bêtise aussi de demander, je trouve, de l'aide à nos proches, à des personnes qui n'ont pas un regard extérieur et neutre sur la situation. Moi, ça a été le cas. Parce qu'au final, quand on vit le baby clash, quand on est en plein dedans, moi, mon mari, je l'insultais de tous les noms auprès de mes amis, auprès de ma famille, en disant mais que c'était un nul. Bon, c'était un mot beaucoup plus grossier, mais voilà, c'était vraiment que des gros mots. Et puis, je dépeignais une image horrible, finalement, de mon mari. Où finalement, c'était la pire enflure du monde. Et d'en parler comme ça à mes proches, ça a complètement brouillé leur vision qu'ils pouvaient avoir de lui. Forcément, enfin moi, si ma fille demain me parle de mon gendre en me disant, ou de ma belle-fille en me disant quelle personne horrible c'est et à combien elle rend malheureuse ma fille, moi j'aurais envie d'aller l'assassiner cette personne. Enfin, très clairement, je serais là, waouh, on ne touche pas à ma fille en fait. Alors qu'en réalité, c'était qu'une période et qu'une passe et que maintenant je ne le pense plus tout ça. Ouais. Et d'avoir parlé à ces gens-là, bah, maintenant ils ont un regard qui n'est pas cool. Auprès de mon mari. Donc je pense qu'il ne faut pas vraiment parler à nos proches, vraiment très proches, ou alors vraiment très proches, mais qui ont le recul nécessaire pour savoir faire la part des choses entre là, elle est en colère, et en vrai, ce n'est pas vraiment cette personne-là qui l'est ou qu'elle est. Mais d'aller parler à des psychologues, à des sexologues, à des thérapeutes de couple, à des conseillers conjugaux, à la PMI, au CMP, si on n'a pas les moyens, parce que ça peut être très cher. Un sexologue, ça peut vite monter à 100 euros la consultation. Clairement, pas tout le monde peut se l'offrir. Donc, il y a aussi des sexologues dans les PMI, dans les CMP. Il faut aller pousser des portes.
Et t'as l'impression que le sujet, il avance un petit peu en France? Toi, t'avais connu ça par rapport à l'Angleterre?
Ouais, ça avance. On en parle de plus en plus. D'ailleurs, quand j'ai sorti mon livre, on a entendu parler du baby clash. Certains médias s'y sont intéressés au thème du baby clash et maintenant sur les réseaux sociaux on en parle beaucoup plus. Moi je vois des comptes qui en parlent du baby clash, qui emploient ce terme et qui disent que ça va pas dans le couple, alors qu'avant c'était jamais sur les réseaux sociaux, mais jamais on disait que c'était compliqué dans un couple. D'ailleurs tout allait bien et puis d'un coup on nous annonçait un tel et un tel se sont séparés. Mais pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, j'ai pas suivi, ils étaient heureux jusqu'à présent. Et maintenant, on en parle de plus en plus. Je pense qu'il y a des langues qui se délient, pas assez vite, pas assez fort, pas assez... Mais ça commence à... Ouais, ça commence à faire son petit chemin.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité?
Bah tout. Ma vie a changé. C'est simple, c'est ma vie, c'est passé du blanc au noir, du noir au blanc, en l'espace d'une naissance. Tout. Ma vision de la vie, ma vision d'écologie, ma vision de la politique, ma vision de moi-même, ma vision du couple, du patriarcat, de la société en général. Tout a changé.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman aixoise?
Que Paris, ça représentait beaucoup d'amour. Moi, j'adore cette ville, mais déjà avec un enfant, pour moi, c'était pas ce que je voulais offrir à mon enfant. Moi je voulais offrir la nature, le rapport à la terre, le rapport à tout ça que j'ai moi pu vivre pendant mon enfance. Même si je suis très citadine, j'ai quand même apprécié vivre comme ça dans mon enfance. Et puis on voulait se rapprocher de la mer, en même temps être pas trop loin de Paris parce que je continuais à bosser à Paris à l'époque. On voulait se rapprocher un petit peu aussi de la famille, voilà, c'était un tout.
Quel est ton endroit kids-friendly préféré à Aix?
Il n'y a pas un endroit où j'aime aller avec mes enfants en particulier. J'aime être avec mes enfants, qu'importe où on est, en fait. Que ça soit aller à la plage, aller à la mer, aller à la montagne, aller même à la maison, sur le canapé, quand on est tous les trois et qu'on lit une histoire et qu'on a un moment où où on est en harmonie, c'est ça, moi, que j'aime faire avec mes enfants.
Et quels sont tes projets, rien que pour toi et ce prévu en famille ?
Projet, rien que pour moi, bah, c'est très, très, très tourné autour du travail. Développer encore plus mon activité professionnelle. Ma marque, VeraM, la famille Tortue, le blog. D'autres choses liées à tout ça dont je ne peux pas encore parler. Mais voilà, beaucoup de choses sur le plan professionnel et sur le plan familial. Il y a des choses, mais dont je ne veux pas forcément parler parce que c'est un peu trop... Enfin, voilà, ça serait trop précipité aujourd'hui d'en parler. Et puis, j'ai pas envie de me porter la poisse, d'en parler trop vite. Mais j'ai envie de dire de continuer d'être heureux ensemble, qu'importe où on soit.
Merci beaucoup, Mélina.
Ben, merci à toi. Merci pour ton écoute. Merci pour ton invitation.
Voilà les mamas, c'est un épisode qui s'achève. Merci pour votre écoute. On se retrouve dès mardi prochain pour découvrir une nouvelle histoire qui parle de la maternité, la vraie. En attendant, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un avis sur votre application de podcast préférée et rejoignez la communauté Hello Mamas sur Instagram. À très vite !